L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.
L'écho des gnous. Bonsoir et bienvenue dans le 235e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu spécial parce que je suis tout seul. On n'a pas pu s'organiser avec Alexandre pour enregistrer parce que vous entendez, ma voix est complètement niquée. Et en plus, histoire de s'amuser un peu plus, j'ai toujours un peu mal au bras, donc la gestion de la console risque peut-être d'être chaotique par moment. Mais c'est pas grave, on va essayer quand même. Et puis comme d'habitude, on peut se retrouver sur IRC en direct si vous voulez poser des questions. Donc n'hésitez pas, les mêmes coordonnées que d'habitude. Donc on va commencer un petit peu par une série de brèves diverses et variées. On va commencer par parler un petit peu de logiciels. Donc tout d'abord, une annonce assez importante dans le monde du logiciel libre ces dernières semaines. Nous avons appris que les poules avaient des dents et que l'enfer gelait, puisque l'entreprise Nvidia a annoncé qu'ils faisaient enfin la transition de leur pilote de cartes graphiques, donc ce qui permet au cartes graphiques de fonctionner sous Linux. Ils font enfin la transition vers un pilote sous licence libre. Alors, il y a beaucoup d'astérisques derrière cette annonce. Un, c'est que pour certaines cartes très récentes. Deux, c'est que la partie dans le noyau, c'est-à-dire c'est pas tout le pilote, c'est uniquement une partie très spécifique où justement c'est la merde de l'avoir en propriétaire, donc en gros ils font ce qu'ils peuvent pour que ça marche bien, et pour l'instant c'est vraiment libre uniquement pour ce qui va concerner la partie la partie plus spécifique des cartes graphiques qui sert au calcul générique, c'est-à-dire les cartes graphiques. Depuis environ 2005, les cartes graphiques sont devenues des machines assez génériques, avec des processeurs qu'on peut programmer comme on veut, et qui ont la particularité d'être très bonnes pour faire plein de choses en parallèle. Si on veut leur faire faire une addition, mais leur faire faire 1024 additions en même temps, elles savent faire très bien. 1024 additions à la suite, elles savent faire, mais c'est moins bien. Et du coup, les cartes graphiques sont très intéressantes pour certains calculs, et notamment pour tout ce qui est intelligence artificielle, c'est bien à la mode. Et justement, on pense que, parce que Nvidia, ils disent pas pourquoi ils ont fait ce changement, mais mon petit doigt me dit, et j'ai une autre actualité qui en parle, mon petit doigt me dit que c'est parce que, en fait, dans les data centers, donc les centres de données de Microsoft, de Google, d'Apple probablement et d'autres, et leur cartes graphiques, ils aimeraient bien les caser, ils aimeraient bien en vendre là-dedans, et dans ces data centers, ils ont des besoins très spécifiques. Ils ont besoin de pouvoir tout gérer, tout contrôler, tout optimiser. Et là, le problème qu'ils ont, c'est que si Nvidia leur demande d'installer un pilote fermé, un pilote propriétaire, ils ne peuvent pas adapter le matériel, ils ne peuvent pas adapter l'intégration du matériel, et donc ils ne peuvent pas intégrer le matériel d'Nvidia et vont se tourner vers la concurrence qui a des pilotes libres. Donc au final, on peut supposer que en fait Nvidia fait la transition vers un pilote libre uniquement parce que il y a un intérêt monétaire derrière, il y a un intérêt financier qui est important pour eux, c'est le marché des data centers. Donc ils font pas ça par grandeur d'âme, ils font pas ça par bonté ou quoi que ce soit, c'est uniquement parce que il y a du pognon à la clé, clairement. Et donc ils ont vraiment envie d'aller choper ces marchés en plus. La transition va être assez longue, il y en a pour plusieurs années probablement, surtout que les équipes du noyau Linux sont assez strictes là-dessus, ils ne voudront pas qu'on intégrer un pilote sans avoir une partie libre qui soit capable d'exploiter ce pilote. Donc il va y avoir toute une étape de transition, ça va prendre au moins 2-3 ans avant que ce soit vraiment effectif, mais voilà, ça progresse. Et ça reste une excellente nouvelle quand même pour commencer cet été. Autre nouvelle dans le domaine des cartes graphiques, une annonce un petit peu étonnante. Donc je l'ai juste inclus pour le fait que l'annonce est un peu étonnante. Microsoft contribue au pilote libre des cartes graphiques d'AMD. Et donc ça rejoint l'argumentaire que j'exposais juste avant sur le fait que Nvidia a ouvert le pilote pour les data centers. Et là c'est AMD qui a dit dans notre usage. Donc Microsoft est un des grands opérateurs dans le cloud, et donc Microsoft dit pour notre usage quand on vend certains types de machines, on a besoin de pouvoir contrôler un peu plus en avant la carte graphique et certaines fonctionnalités très spécifiques que personne n'a vraiment géré pour l'instant sous Linux. Et donc Microsoft a décidé de contribuer un patch au noyau Linux pour la gestion de cette fonctionnalité des cartes graphiques. Et du coup, voilà, je pense que ça illustre la motivation d'NVIDIA. NVIDIA vise le marché des data centers et c'est un marché qui est très spécifique. Et pour répondre à des besoins spécifiques, le mieux, c'est de donner toutes les clés pour contrôler le logiciel. Et au final, ça revient à l'un de nos arguments préférés, c'est dire le libre est mieux techniquement parce que ça permet à chacun de l'adapter à son besoin. Et c'est un vrai souci, c'est on a besoin de pouvoir adapter et pas d'avoir un truc clé en main qui dès qu'on voudra sortir du cadre, ne marchera plus. Autre nouvelle du côté du noyau Linux, on avait parlé il y a 2-3 mois de ça, peut-être un petit peu plus, je ne sais plus maintenant, de l'intégration, je crois que c'était la fin de l'année dernière, l'intégration dans le noyau Linux du pilote pour les pilotes NTFS. Alors un nouveau pilote NTFS 3 qui a été, maintenant je peux utiliser des guillemets, qui a été offert par une entreprise. L'entreprise c'est Paragon qui a offert son pilote, qui a dit, écoutez, on le passe en libre et on l'intègre au noyau Linux. Et le problème, c'est que Paragon Software, donc l'entreprise qui a fait ce don, a déposé le pilote. Puis une fois que le pilote a été intégré dans le noyau Linux, pouf pouf, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Et donc là, il y a des bugs qui ont été signalés, il y a des trucs qui ont été demandés par rapport à ce pilote, et il n'y a personne qui répond. Donc il y a un problème. Alors, je pense qu'une société, NVIDIA qui édite son matériel, qui édite son pilote, aura pas d'intérêt à faire ça, mais ça montre aussi un des petits soucis, c'est que il faut des mainteneurs, il faut des gens pour maintenir le pilote à jour, etc. Et là, NTFS, c'est un sujet qui est très compliqué, c'est vraiment des sujets extrêmement sensibles. Et donc là, on a une petite situation un peu compliquée, puisqu'on a reçu donc un gros morceau de logiciel libre, et on sait pas trop ce qui va devenir le morceau pour l'instant. Donc là, NTFS 3, donc le nouveau pilote, si ça se trouve, sera supprimé. Ou il y a peut-être quelqu'un interviendra pour le maintenir. On sait pas encore comment ça va se passer. Enfin, deux autres nouvelles logicielles à traiter. Donc on a une autre qui m'intrigue un petit peu. C'est une définition un peu particulière de. Alors, c'est des gens qui n'aiment pas du tout le logiciel libre, puisque là, nous avons parlé d'Apple. Google est un peu sur la même pente. Sur l'App Store, donc le magasin d'applications pour iOS, macOS et autres, Apple s'est lancé dans un grand ménage de printemps et a décidé d'expliquer à tout le monde que, si votre application n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois, alors je ne sais pas combien de mois, plusieurs années, on a décidé que votre application devait être supprimée parce que ça veut dire qu'elle n'est plus maintenue. Et j'aime beaucoup ce genre d'argument. C'est magnifique. C'est-à-dire que, selon Apple, une application ne peut pas être terminée. On ne peut pas avoir fini de développer l'application et puis elle marche, c'est bon, il n'y a plus de problème. Donc il n'y a pas besoin de la maintenir. Quand quelque chose est fini, il n'y a pas besoin de le modifier, il me semble. A priori, selon Apple, si, il faut tout le temps mettre à jour. Ce qui a un inconvénient, c'est que ça nécessite du coup au développeur de l'application de continuer à payer en permanence un abonnement. Et puis si l'éditeur de l'application a disparu, l'application disparaîtra. Voilà. Donc je trouve cette solution assez osée de la part d'Apple. Alors je ne retrouve pas la durée qui a été demandée. Toujours est-il que cette règle-là va purger probablement. Alors, il vise une mise à jour, j'ai retrouvé, trois dernières années et un palier minimal de téléchargement. Alors, on ne sait pas quels sont les chiffres, on ne sait pas du tout. Mais voilà, ça va être très bien, ça aussi. Et côté Google a annoncé un truc un peu plus vicieux qui entrera en vigueur au 1er novembre. Donc on a un peu de marge. Et le truc vicieux, c'est qu'ils ont annoncé que toute application sur la boutique devra viser le niveau de compatibilité avec un Android sorti au cours des deux dernières années. Et là où c'est dégueulasse, je trouve, c'est que jamais Google n'a imposé aux fabricants de téléphones Android de mettre à jour les Android. Ils disent faut le faire, hein. Ils font peut-être même qu'ils vont aller jusqu'à faire les gros yeux. C'est le plus loin qu'ils puissent faire, mais jamais ils n'ont dit aux fabricants vous devez proposer des mises à jour de votre téléphone Android. Et du coup, bah, si les fabricants ne font pas de mise à jour, vous allez vous retrouver avec un téléphone qui ne pourra plus accueillir de nouvelles applications, non pas pour des raisons matérielles, non même pas pour des raisons logicielles, mais uniquement parce que l'éditeur, pour être en accord avec une politique de Google, aura visé un niveau de compatibilité supérieur à ce dont il a besoin. Obsolescence programmée, c'est pas loin. Alors, c'est pas Google qui en profite directement, mais je trouve la méthode un peu délicate quand même. Et enfin, une dernière brève logicielle, donc pour parler d'une nouvelle du côté du logiciel libre, la version 36 de la distribution Linux Fedora est sortie. Donc Fedora, c'est une distribution communautaire qui est dérivée de Red Hat, donc avec tout un ensemble d'améliorations. Alors, je vais pas vous faire la liste, hein, c'est un classique de distribution Linux, donc amélioration de l'ensemble des... Enfin, mise à jour de l'ensemble des logiciels, nouvelle version de GNOME, de KDE, support de certains types de matériel, la routine habituelle. Il y a une excellente dépêche sur le site Linux.fr pour ceux qui sont intéressés pour voir l'ensemble des changements. C'est une distribution Linux qui vit depuis un certain temps. Hein. C'est quand même la version 36. Ça fait depuis au moins 20 ans que la distribution existe. Ça marche, elle marche plutôt bien. 20 ans. Un petit peu moins de 20 ans, pardon. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Ça reste une excellente distribution. Et puis si vous voulez voir les détails des changements, je ne peux que vous conseiller l'excellente dépêche sur le site Linux.fr. On se retrouve juste dans une paire de minutes après un verre d'eau et un morceau de musique. Donc on va écouter Grand Daddy de Victoria Café, toujours sur Radio Campus. Alors 106.6 peut-être, je sais pas si l'émetteur est encore en marche, enfin est à nouveau en marche, et sinon sur la radio numérique terrestre et sur radiocampuslille.com. Et on se retrouve dans quelques minutes. Feeling in the back of my mind. C'était Grand Daddy de Victoria Café, toujours sur Radio Campus 106,6. Vous écoutez l'écho des gnous. Et c'est la deuxième partie des actualités. On va parler un petit peu de sécurité et de vie privée. Alors tout d'abord, une première annonce donc de la part du consortium, enfin d'un consortium, de la part d'un consortium, donc Fido, avec conjointement à ça donc Apple, Google et Microsoft, qui ont publié un communiqué affirmant. Donc ça a été publié le 5 mai, c'est-à-dire lors de la journée mondiale du mot de passe, parce que oui, on fait des journées mondiales pour tous les trucs à la con. Et donc lors de la journée mondiale du mot de passe, ils ont publié un communiqué où ils affichent leur volonté d'en finir avec les mots de passe. Alors les mots de passe, pourquoi qu'on veut en finir? Ben c'est simple, hein, un mot de passe, c'est parfait pour un humain, c'est parfait pour l'ordinateur, c'est horrible pour un humain, puisque un mot de passe, il faut que ce soit très compliqué. En fait, un bon mot de passe ne peut pas être mémorisable. Donc du coup, c'est affreux pour un humain. La complexité d'un mot de passe devient telle que seul un ordinateur peut la mémoriser. Et au final, un mot de passe est un outil pour les ordinateurs, mais pas pour les humains. Ça ne marche pas, faut arrêter les bêtises au bout d'un moment. Et du coup, aujourd'hui, on n'a toujours pas de bonne solution qui est proposée en remplacement du mot de passe. Parce que... Il n'y a pas de solution uniformisée, il n'y a pas de truc vraiment mis en place pour ça. Alors, de la part de trois gros éditeurs comme Apple, Google et Microsoft, leur volonté d'en finir avec les mots de passe, c'est une bonne chose, pourquoi pas? Alors, on va nous dire qu'aujourd'hui, oui, il y a des gestionnaires de mots de passe, il y a de la double authentification des fois avec une application ou un SMS, ce genre de choses, mais c'est pas encore suffisant pour supprimer le mot de passe, que le gestionnaire de mot de passe, il faut l'installer. La double authentification, mais c'est une double authentification, mais il y a toujours une première étape, et c'est cette première étape qui continue de poser problème au final. Donc, quoi qu'on fait? Alors, aujourd'hui, il y a des améliorations qui sont proposées, donc notamment ce que cherchent à mettre en avant ces fabricants, et c'est le point d'alerte à mes yeux dans tout ce qui va être proposé autour de ça. C'est que pour résoudre la problématique de qu'est-ce qu'on met à la place du mot de passe, il faut aller chercher quelque chose. Alors, l'une des propositions, c'est d'aller chercher des solutions biométriques. Alors, je sais pas pour vous, moi, sur mon ordinateur personnel, je n'ai ni webcam, ni capteur d'empreinte digitale, ni Bluetooth. Donc, la communication avec un téléphone portable en Bluetooth, ça ne va pas marcher. D'ailleurs, j'ai pas de lecteur d'empreinte digitale sur un téléphone portable, j'ai pas de lecteur d'empreinte digitale nulle part. Donc, lire l'empreinte digitale, ça marchera pas. La webcam, va falloir en trouver une qui soit pas obscurcie. Donc, c'est compliqué, la biométrie là-dessus, sans tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y a plein de propositions, mais ce qui m'inquiète, c'est que toutes ces propositions sont axées autour d'une seule chose, c'est le téléphone portable et la présence d'applications sur le téléphone portable pour gérer l'authentification. Alors, on a à voir ce qu'ils vont proposer réellement, mais ça fait que le déverrouillage du téléphone portable devient plus important, puisque ça veut dire que cet accès permet de déverrouiller l'accès à l'ensemble des comptes auxquels vous auriez accès. Et puis, tout le monde n'est pas équipé de téléphone portable. Qu'est-ce qui se passe en cas de perte de téléphone portable? Qu'est-ce qui se passe en cas de changement de téléphone portable, et notamment en cas de changement non pas simplement de modèle au sein d'une gamme uniforme, c'est-à-dire non pas en cas de passage l'iPhone 18 à l'iPhone 25 ou du Samsung S12 au S15, mais en cas de passage d'un iPhone à un Android, d'un Android à un iPhone, ou pire, passage à un système vraiment libre. Tout ça, ça fait pas partie des problèmes qui sont évoqués là-dedans. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, puisque nous avons... transition magique vers une autre actualité, nous avons un merveilleux exemple qui a été mis en avant par la Free Software Foundation Europe sur son blog, l'exemple de l'authentification, enfin du système de vérification d'identité numérique aux Pays-Bas. Donc ils ont décidé que l'authentification désormais ça serait pas juste un SMS et un mot de passe, mais donc toujours le mot de passe, et une application sur un smartphone. Et là, il y a un petit problème, c'est que les applications en question ne marchent que sur iOS et Android, avec en plus l'utilisation de services tiers. Donc, c'est-à-dire que ces applications ne marcheront pas sur un Android dégooglisé, donc un Android vraiment libre auquel on aurait retiré les services Google, eh ben ça marchera pas, vous l'avez dans le baba. Et la seule solution qui est possible, alors là il y a un exemple qui est donné pour le fait de renouveler un permis de conduire aux Pays-Bas, et avec tout un diagramme très amusant. Si vous ne possédez pas de permis de conduire valable, vous devez aller en mairie. Sinon, si vous êtes, si vous vivez dans une municipalité où on peut, où on ne peut pas faire l'extension en ligne, eh ben vous devez le faire à la mairie, évidemment. Si on voulait faire un changement de catégorie, si vous voulez faire des changements plus avancés que juste une extension, vous devez aller à la mairie. Si vous n'avez pas l'application, vous devez aller à la mairie. Si vous n'avez pas pris votre photo d'identité auprès d'un photographe certifié, vous devez aller à la mairie. Et sinon, vous allez recevoir un mail avec tout le nécessaire dans l'application pour pouvoir faire l'extension. La clé là-dedans, pour pouvoir faire le processus en ligne, c'est avoir l'application, une application qui est fermée. Vous allez me dire, mais oui, mais pour sécuriser l'application, il faut bien qu'ils la maîtrisent et ils ne peuvent pas la sortir sur toutes les plateformes en même temps. Eh bien, on a un merveilleux contre-exemple de comment ça peut être fait correctement. C'est avec l'Allemagne, et en Allemagne, il y a Ausweis App, donc qui est... Alors, je suis désolé, je ne suis pas allé vérifier sur le site de l'application exactement tout ce qu'elle faisait, parce que je suis un peu fatigué par mon rhume en ce moment, donc je n'ai pas trop eu le temps de recreuser. Mais donc, l'application, directement, quand on va sur Download, sur cette application-là, on a une section Open Source, pour avec tous les renseignements, on peut avoir... En fait, c'est une application qui va se baser sur la lecture de cartes NFC, ou de carte à puce, et du coup, ben, si vous avez un lecteur de carte compatible et que vous avez l'application, il n'y aura pas de problème. Parce que ça va... Ben, vous prenez votre carte d'identité, et puis vous la scannez, et puis tout marche. Alors que là, la solution des Pays-Bas, c'est il faut avoir le bon smartphone, smartphone uniquement, hein, ordinateur de bureau, ordinateur portable, interdit. Et donc, aux Pays-Bas, il faut avoir le bon smartphone pour aller lire la carte d'identité en NFC. C'est une très mauvaise solution justement à la problématique des mots de passe. Et ma crainte, c'est que ben, Apple, Google et Microsoft partent dans cette direction. Puisque, ben, voyons, il n'y a pas de problème. C'est tout le monde a un smartphone de nos jours. Donc, à suivre. Malheureusement, on en reparlera, je pense, dans les prochains mois, hein, au fur et à mesure des annonces autour de ça. Après, c'est des trucs qui prennent toujours très longtemps à se mettre en place, mais va falloir garder un œil attentif là-dessus si on ne veut pas perdre la possibilité d'utiliser autre chose que les systèmes fermés d'Apple et de Google. Autre nouvelle d'ailleurs sur le front des mots de passe, ça a été annoncé début avril, Raspberry Pi, pour son système d'exploitation qui est installé par défaut, abandonne enfin le login et le mot de passe qui étaient utilisés par défaut depuis plus de 15 ans. Il y en a qui ont un peu de retard des fois. Celle-là, elle pique un petit peu quand même. 15 ans. Il y a peut-être un peu moins de 15 ans depuis la première Raspberry Pi. Peut-être 10 ans. Donc, ça faisait depuis 10 ans que ben, des milliers de machines étaient branchées sur Internet, des fois avec des connexions à distance autorisées, avec un login et un mot de passe que tout le monde connaissait et qui était extrêmement basique. Là, pour un de mes clients, lorsque je suis intervenu, la première chose que j'ai fait, que je leur ai dit en arrivant, c'est « Changez-moi ce putain de mot de passe tout de suite ». Parce que ben je leur ai dit ben là je contrôle l'ensemble de vos machines alors que on n'a rien signé pour l'instant. Parce que ben voilà, le mot de passe par défaut, tout le monde le connaît celui-là, donc au bout d'un moment, ça pose un petit souci. Une autre nouvelle, toujours concernant la vie privée, nous avons le retour du merveilleux ami des politiques, hein, Anonymat mon amour, comme on dit. Quand on a un problème et qu'on veut. Forcer des contrôles sur Internet, le plus simple, c'est de dire « Ah, les gens en ligne, ils sont anonymes et c'est pas bien !» Donc, cette fois-ci, c'est Manu hein, qui a déclaré le 12 avril que, ouverture de guillemets, « Dans une société démocratique, il ne devrait pas y avoir d'anonymat. On ne peut pas se promener encagoulé dans la rue. Sur Internet, les gens s'autorisent car ils sont encagoulés derrière un pseudo à dire les pires objections. » Fermeture de guillemets. Donc c'était avant qu'il soit réélu hein, qu'il a dit cette nouvelle connerie, mais c'est pas parce qu'il a été réélu qu'il va arrêter d'en dire, surtout celle-là. Alors, petit rappel des règles du jeu en dehors de l'univers en ligne. Imaginons un animateur de radio, même une radio associative, genre moi, décide de dire une connerie, genre dire du mal de la maman de Manu. Alors Manu l'apprend, il est offensé et décide d'aller voir la police pour porter plainte contre ce vil trublion. Donc, que fait la police? La police regarde quand est-ce que ça a eu lieu, vérifie, contacte la radio. Donc, bonjour Radio Campus, qui est le crétin qui parlait à 19h35 le dimanche machin? La radio dit, ah ben écoutez, ça part, c'est telle émission, donc on contacte le responsable de l'émission. Donc, Radio Campus contacte Alexandre, hein, puisque... Je suis peinard, moi, c'est pas mon responsable. Et Alexandre leur dit, ah ben non, là, ça c'est fini. Donc, Alexandre donne mon identité à la police parce que ben, il a pas le choix. Il n'y a pas d'anonymat. Maintenant, imaginons que je prenne clavier souris et j'écrive sur un commentaire sur le site sur le site de Next Impact, puisque c'est lui qui reparlait de cette citation de Manu. Et j'écris, ah oui, la maman de Manu, c'est une péripatéticienne. Voilà, je peux dire ce genre de conneries, hein, voilà. C'est pas vrai, hein, moi je la connais pas, la maman de Manu. Et du coup, outrage majeur, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il contacte la police, puis la police contacte le site, et le site il dit, ah, c'était l'IP qui a fait ça à tel moment. La police contacte l'opérateur qui possède l'IP, et puis l'opérateur il dit, ah ben là, ça c'est la connexion de Pierre. Voilà, fin. Il n'y a pas d'anonymat. C'est un pseudonymat. Et vous avez noté, c'est même encore plus simple que finalement que s'ils essayaient de me retrouver moi qui parle à la radio. Donc, qu'est-ce qui vous prend à chaque fois, à part quand vous cherchez un prétexte, voilà, il n'y a pas d'autre raison d'affirmer que nous sommes anonymes sur Internet. Alors, les gens se croient anonymes sur Internet. C'est peut-être ça la nuance. Se croire anonyme sans l'être, ce qui fait que justement c'est peut-être encore mieux, puisque les gens qui ont des mauvaises idées derrière la tête, ils vont se croire tout permis grâce à l'anonymat, il y aura juste à les choper derrière. Donc c'est bizarre, et donc encore une fois, hein, c'est une habitude chez Manu, hein, de s'attaquer à l'anonymat et au pseudonymat. À suivre, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, donc là avec les dernières annonces, le Digital Service Act, notamment au niveau européen, on ne sait pas comment ça va se passer exactement, mais la seule solution, s'ils veulent supprimer le pseudonymat, c'est d'avoir une grosse entité de flicage complète sur Internet. Je pense que les libertés prendraient quand même un gros coup dans la gueule. Donc, à suivre. Autre sujet, en parlant de mélange politique et Internet, la pornographie est pour les mineurs. Évidemment, hein, le grand sujet qui fait tout le temps parler de lui ces derniers temps. Ça fait quand même quelques mois que des associations attaquent, à travers les différentes procédures judiciaires possibles, attaquent tout un ensemble d'acteurs sur Internet. Et donc là, ils ont décidé de s'attaquer à Twitter. Parce que Twitter, a priori, alors moi je fréquente pas Twitter, donc j'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas, mais a priori, Twitter ne filtre pas du tout le contenu pornographique et permet d'y accéder même sans contrôle de l'âge. Apparemment, la seule restriction serait que certains contenus qui ont été identifiés comme litigieux, il y a juste un clic à faire pour les afficher. Alors si tel est le cas, effectivement, c'est une protection qui n'est pas légale, puisque la loi impose une vérification rigoureuse de l'âge. Alors, que peut faire Twitter face à ça? Je ne sais pas, puisque à part demander à chaque abonné Twitter sa carte d'identité, il n'y a pas vraiment de solution pour vérifier l'âge. Puis récupérer les cartes d'identité comme ça, on va même pas commencer à rentrer dans tous les problèmes de fraude, les problèmes de fuite de données, etc. qui sont liés à ça. Et donc, la seule solution serait que l'ARCOM, donc le successeur de l'ARCEP et du CSA, l'ARCOM interdise l'accès à Twitter en France. Je pense pas qu'ils vont aller aussi loin. Du coup, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, ils s'étaient attaqués surtout à des sites pornographiques. Donc, dire sur la place publique, ouais, on veut bloquer l'accès aux sites pornographiques qui contrôlent pas l'âge correctement, pas de problème. Mais dire, on veut bloquer l'accès à Twitter. Là, vu l'importance qu'a pris Twitter dans le débat public, avec notamment même des politiques qui parlent dessus, je me demande quand même comment ça va se passer. Donc c'est une petite attaque à suivre, hein. Donc je sais plus exactement où est-ce qu'ils en sont dans la procédure. On verra, hein. Si ça se trouve, on va leur dire que oui, on va bloquer Twitter en France. Ça ferait plaisir de voir Twitter bloqué, mais je doute qu'on arrive là-dessus. Et sinon, le parquet, donc la cour d'appel de Paris, a entendu les plaidoiries jeudi c'était jeudi en début avril, donc on n'a pas pu en parler dans l'émission depuis. Donc concernant le blocage de sites pornographiques par les FAI, puisque donc les associations ont demandé à ce que les FAI bloquent l'accès notamment à YouPorn et Pornhub. Et donc la décision sera rendue le 19 mai. Et donc il y a une proposition du ministère public qui est en gros, c'est aux FAI de faire le blocage. C'est aux FAI de contrôler l'âge et de bloquer en fonction de ça. Alors j'espère que non, parce que c'est ridicule, le FAI ne peut pas savoir qui est derrière l'ordinateur. Le FAI c'est juste qui est abonné. Et évidemment c'est pas un mineur qui va être abonné. Donc il y a un côté un peu drôle là-dedans, donc à suivre. On va continuer à bien se marrer avec tout ça. Et enfin, une dernière petite nouvelle positive pour la vie privée. Donc désormais, lorsqu'on voudra refuser les cookies de Google, au lieu d'avoir 5 actions à faire, il ne faudra plus en faire qu'une seule. Ce qui tombe bien, puisqu'en fait, c'est ce que la loi demande. Ça ne doit pas être plus compliqué de refuser que d'accepter. Donc Google va enfin revoir sa façon de demander les cookies. Mais par contre, je note qu'ils le font maintenant. Ça fait combien de temps du coup que les gens se retrouvent tous à cliquer sur accepter les cookies chez Google sans avoir jamais pu réellement dire ah non je veux vraiment pas que Google les stocke. Et du coup ça fait combien de temps que Google a enregistré l'information que si ils acceptent les cookies. Et donc il va y avoir un retard de combien, il y a combien de gens qui n'auront jamais la possibilité de refuser facilement les cookies de Google grâce à ce magnifique bottage en touche de la part de Google. À suivre, on va encore bien se marrer. Du coup, on va passer au dernier pot pourri de brève, mais avant tout, on va écouter un petit morceau de musique supplémentaire. On va écouter The Picture de Besson and SA, toujours sur Radio Campus 106.6. Vous écoutez les codes nous, et on se retrouve dans quelques minutes. We'll be right back. C'était The Picture de Besson and SA, toujours sur Radio Campus 106,6. Vous écoutez les codes avec nous, et c'est la troisième et dernière partie des actualités. Alors, Alexandre n'a pas pu nous rejoindre, mais il a enregistré deux sujets depuis chez lui, que je vais vous diffuser maintenant. Puis comme ça, ça me permettra de reposer un petit peu plus ma voix avant la fin des actualités. Donc tout d'abord, un premier sujet concernant Facebook et l'Australie, puisque Facebook est accusé d'avoir délibérément bloqué des pages gouvernementales pour empêcher le vote d'une loi. Alexandre, je te laisse la parole en différé, du coup, depuis chez toi.
Après Microsoft, nous allons prendre des nouvelles de Facebook avec une nouvelle qui illustre de manière aiguë les dangers de la dépendance à la diffusion de l'information par des plateformes centralisées. C'était dans le cadre de la discussion d'une loi en Australie dont le gouvernement voulait imposer à Facebook de rémunérer les journaux pour leur contenu publié sur la plateforme. Bon, ça rappelle le conflit entre les diffuseurs de contenu et les GAFAM, notamment Google en Europe, lors de l'adoption de la directive sur le droit voisin. Pour peser sur le débat, Facebook avait restreint en Australie l'accès à des journaux locaux et internationaux, mais également des sites institutionnels diffusant des informations sur le Covid-19 ou des catastrophes naturelles. Si le blocage des sites de presse était délibérément présenté comme une mesure de rétorsion, le blocage des sites des services publics était présenté comme involontaire. Mais des lanceurs d'alerte ont témoigné auprès du département de la justice américain et de la commission australienne de la concurrence et de la consommation. Et cela a montré que Facebook, en réalité, savait que leur algorithme de filtrage touchait bien plus largement que les sites qui étaient visés. La loi a finalement été adoptée par le Parlement australien, mais le contenu a été modifié, je vous le donne en mille, en faveur de Facebook après des négociations. Et à la suite de l'accord donc, entre le gouvernement et Facebook, miracle, l'accès aux sites gouvernementaux a été rétabli. Alors, on se rend tous compte donc, des grands dangers qu'il y a derrière ce genre de choses. La question de l'intentionnalité, elle est secondaire. Fait exprès, pas fait exprès, le seul fait que une entreprise, une plateforme puisse à ce point influer sur l'actualité, sur les informations qui sont présentées aux citoyens, c'est absolument gravissime. Je pense, Pierre, que tu seras d'accord avec moi. On l'énonce depuis longtemps, et là on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la manipulation de l'information par une entreprise privée. Ça illustre que la mainmise de quelques acteurs dans la diffusion de l'information, ça peut provoquer de très très graves abus. Alors, un autre problème qui est soulevé, c'est le pouvoir d'un acteur privé d'imposer sa loi à un gouvernement. Alors, c'est loin d'être exclusif au domaine des technologies de l'information, c'est pas exclusif aux plateformes internet, mais là, ça touche à l'information. Alors, ça marche aussi avec les sociétés audiovisuelles. Et ici, uniquement Facebook n'est pas concerné. Twitter et Google aussi. C'est-à-dire que des entreprises peuvent influer sur l'information qui est présentée aux citoyens. C'est absolument gravissime. Donc je pense, Pierre, que tu seras absolument d'accord et que tu seras, comme moi, horrifié.
Tout à fait. Lorsque j'ai vu cette actualité, ça m'a aussi bien choqué, je trouve ça ridicule qu'il y ait autant de pouvoir au sein d'une entreprise. Alors, sur le fait qu'une entreprise ait trop de pouvoir, juste un rappel, plusieurs chaînes de télé et autres médias en France sont sous le contrôle d'un ensemble de, déjà d'un milliardaire breton assez connu qui a tendance à avoir une orientation politique assez extrême marquée et imposée à l'ensemble de ces médias. Et on en a beaucoup d'autres en France. Hein. Les médias vraiment indépendants en France sont rares, malheureusement, maintenant. Et le problème est le même aux États-Unis et même dans la majorité des pays maintenant. Et pour revenir sur le problème des réseaux sociaux en tant que tel, on a un mouvement qui est en cours, qui est autour de Twitter, où Elon Musk, donc le fondateur de Tesla, est sur le point d'acheter Twitter et donc d'être l'unique propriétaire de Twitter. Alors, il fait ça avec une pensée libertarienne, c'est-à-dire une vision extrême de la liberté d'expression sur l'interdiction de bloquer ne serait-ce que les contenus haineux. Et donc, on verra déjà s'il le fait ou si c'est un gros coup de bluff. Ça semble plutôt être parti pour être fait. Mais on verra ce que ça va donner. Et j'avoue, c'est assez inquiétant aussi du point de vue de la diversité d'avoir... Déjà, Twitter aujourd'hui est inquiétant, mais alors si Twitter est sous le contrôle d'une seule personne avec les idéologies libertariennes américaines, là j'avoue, ça devient encore plus inquiétant. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et enfin, une autre actualité d'Alexandre concernant Windows, et donc Windows 11, et l'obligation d'avoir des comptes Microsoft.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous. Microsoft imposait la connexion à un compte Microsoft pour l'installation de la version personnelle de Windows 11. Désormais, il compte forcer également les utilisateurs de la version Pro, qui étaient jusqu'à présent épargnés, à avoir un compte en préalable à l'installation du système d'exploitation. Ça rappelle ce que fait Google avec les mobiles sous Android, qui oblige également à avoir un compte, sinon vous ne pourrez pas paramétrer votre smartphone, à ceci près que sous Windows, c'est pas comme sous un Android, vous pouvez quand même normalement installer facilement des applications tierces. On ne vous force pas la main pour utiliser le store de Microsoft, bon, même si c'est quand même de le promouvoir. Bon, on y voit une technique hein, pour lier l'utilisateur à ses services en ligne tels que Office 365 ou surtout pousser les utilisateurs à sauvegarder leurs données dans OneDrive, leur service de cloud. Alors, au fil du temps, des moyens pour contourner ce dispositif ont été trouvés, mais ils ne sont pas triviaux. Un des exemples les plus connus est de rentrer de faux identifiants de comptes Microsoft. L'authentification échoue, mais le programme d'installation propose de continuer tout de même. Bon, reste que cela peut dissuader les entreprises d'utiliser Windows 11 pour des raisons assez évidentes. Alors, d'un côté, les ordinateurs pro dans les entreprises ne sont pas forcément toutes connectées à Internet, ou alors avec une connexion très limitée avec une whitelist de sites Internet, même si... dire ça se fait quand même de moins en moins. Mais le danger principal, c'est qu'elle pourrait être rebutée par le danger de fuite de données que constitue la synchronisation d'un ordinateur à un compte Microsoft. Si, par inadvertance, la synchronisation des données de l'ordinateur était faite avec OneDrive. Pour des entreprises qui travaillent dans des domaines sensibles, c'est quand même compliqué hein, pour des enjeux de souveraineté, ou même une entreprise qui est un tant soit peu vigilante au devenir de ses données n'a pas forcément envie de les partager avec Microsoft. Donc voilà, c'est une régression de chez Microsoft. On verra à l'avenir ce que ça va engendrer. Au final, il est quand même pas improbable que Microsoft doit faire machine arrière pour les clients professionnels, sinon ça va être, je pense, compliqué de faire adopter Windows 10.
Windows 11.
Pierre, je te laisse la main.
Ouais, donc, alors, petite erreur de ma part, du coup, je m'excuse auprès d'Alexandre pour avoir inversé l'ordre des actualités. Elles n'étaient pas dans le même ordre dans notre page conductrice et du coup dans ce qui était prévu au niveau des fichiers audio. Et juste un complément par rapport à Windows 11, puisqu'il y a eu un petit truc qui était annoncé par Microsoft, c'est une nouvelle fonctionnalité de sécurité à base d'intelligence artificielle qui analyse si les applications font des choses qui sont supposées être normales ou non, etc. Avec des modèles d'intelligence artificielle entraînés dans le cloud de Microsoft. Bref, tout un gros pataquès. Et il y a un truc qui est très intéressant sur cette fonctionnalité. Il a été annoncé qu'elle sera disponible dans Windows 11, mais si vous faites une mise à jour vers la version de Windows 11 qui possède cette fonctionnalité, pour que la fonctionnalité soit active, il va falloir faire une remise à zéro de la machine, c'est-à-dire forcer la réinstallation de l'ensemble des applications. C'est la première fois que je vois ça, donc du coup ça veut dire qu'on va avoir un système où une fonctionnalité de sécurité, ben en fait ça va dépendre. Si on a fait une mise à jour avant, ben la fonctionnalité elle sera pas là, c'est tout. C'est n'importe quoi. Je comprends vraiment pas, il n'y a aucun intérêt technique à faire ça comme ça. Mais du coup, ben écoutez, ça va être amusant à voir ça aussi. Déjà, la confusion autour de Windows 11 est importante, mais alors s'il commence à avoir ce genre de comportement en plus, ça va vraiment pas s'améliorer. On va se faire une petite dégigalisation dans quelques minutes. On va écouter juste un autre morceau de musique. On va écouter Tickle the Scar de John Worsley, toujours sur Radio Campus 106,6. C'est l'écho des nous. On se retrouve dans quelques minutes.
Everyone thinks she's a renegade. She walks through the streets and acts real brave. Takes you to the can when you wanna get laid. Tickles the scar you got in the third grade.
C'était Tickle the Scar de John Worsley, toujours sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Vous écoutez l'écho des gnous et on va faire une petite dégicalisation. On va parler un petit peu de système de fichiers et de reliques du passé. C'est un petit sujet comme ça pour s'amuser. On va prendre des petits bouts d'informatique moderne et dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose et d'où ça vient? Alors, j'expliquerai un petit peu après pourquoi j'en parle cette fois-ci. C'est vrai que c'est un sujet que j'aurais pu faire il y a 15 ans, qui aurait été déjà identique, il y a 15 ans, il y a même 20 ans. Même si, ouais, quand j'ai découvert l'informatique, ce sujet aurait déjà pu être fait quasiment tel quel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on était déjà en train de maintenir des reliques du passé. Et aujourd'hui, bah, les reliques du passé d'il y a 30 ans, elles sont toujours en place. Et les gens continuent de dire « oui, c'est normal ». Donc là, on va prendre un premier exemple. Je vais prendre l'ordinateur du studio. Alors ici, j'ai un ordinateur ici qui est sous Windows, et là-bas, il y en a un sous Linux. Donc on parlera de l'ordinateur sous Linux après, surtout que de toute façon, je ne vais pas m'y déplacer, je connais par cœur le sujet là-dessus. Sous Windows, tout le monde dira « oui, mais le disque dur, il s'appelle C2. » Mais pourquoi C2 ? Mais c'est, je trouve que c'est assez amusant de voir d'où ça vient. C'est parce que les premiers ordinateurs PC, donc les premiers PC, avaient deux lecteurs de disquettes et pas de lecteurs de disque dur. Et les lecteurs de disquettes avaient été nommés A2 et B2. Quand on a commencé à ajouter des disques durs, on a commencé à dire A2, B2, C2. Pour le disque dur. Et puis après, on a commencé à dire, ouais, si on met plusieurs disques durs, ben C, D, E, F, etc. Si on met des partitions, si on met lecteur de CD-ROM, etc. Et du coup, lorsqu'on a commencé à dire, mais non, mais deux lecteurs de disquettes, ça sert à rien, ça prend plein de place, et puis personne ne met plus deux disquettes en même temps, parce qu'avant, il fallait mettre une disquette pour démarrer le système, une disquette d'application, puis après, on a enlevé une disquette pour mettre la disquette sur laquelle on mettait nos documents. C'était une catastrophe. J'ai utilisé un petit peu des ordinateurs comme ça, c'était pénible. Ça n'existe plus, il n'y a plus besoin. C'est même aujourd'hui, trouver des lecteurs de disquettes, c'est un exploit. Et du coup, ben Windows continue parce qu'il y a plein d'endroits, si ça se trouve même dans Windows, où la notion de C2 est écrite en dur. Et du coup, ben, on ne peut plus y toucher. C'est une relique qui date des années 80, du début même des années 80 plutôt que de la fin des années 80. Donc ça fait plus de 40 ans. On se traîne cette historique et on va devoir expliquer encore dans 10 ans, dans 20 ans, devoir expliquer à des gens pourquoi que ça s'appelle C2 et pas A2. Et je trouve ça toujours rigolo de se dire c'est à cause des lecteurs disquettes sous DOS sur les premiers IBM PC. Vous allez me dire oui, mais le monde de Linux n'a pas ce genre de choses. Eh bien si, le monde de Linux a aussi une relique qui date d'avant la création du noyau Linux. Et qui, c'est un héritage. Le noyau Linux a hérité de cette antiquité et ben, l'a gardé. Et aujourd'hui, on a même des distributions Linux qui ont commencé à le supprimer, cette antiquité, à dire non, c'est bon, on arrête, il n'y a plus besoin, on le sait très bien qu'il n'y a plus besoin, on fait ça. Mais des distributions Linux ont du mal à faire la transition pour diverses raisons techniques, notamment ben, il s'agit des distributions Debian qui n'arrivent pas à faire la transition. Et qu'en fait, comme c'est repassé dans mes actualités récemment, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'en parler. On n'a pas cette notion de disque comme ça sous Linux. On a une arborescence qui est globale, qui est unifiée, avec ben, l'accès à certains disques externes qui vont être indiqués à certains endroits spécifiques, ben, dans slash media. Les dossiers personnels sont dans slash home. La configuration est dans slash etc. Les éléments de démarrage de la machine sont dans slash boot. C'est une hiérarchie qui est assez standardisée et qui est commune à beaucoup de systèmes type Unix. Là où il y a une particularité, par contre, alors qui passe propre à Linux, hein, c'est le cas sur beaucoup d'Unix, c'est l'emplacement des applications. Donc il y a des applications qui vont être stockées dans slash bin, slash lib, selon le type de fichier, et d'autres qui vont être dans slash user, slash bin, slash user, slash lib. Mais pourquoi quoi qu'est-ce? Comment? Pourquoi? Alors, quand j'ai découvert le monde Linux, la théorie qui était donnée là-dessus était de dire, oui, alors dans slash bin, c'est les applications essentielles du système, et dans slash user, c'est les applications moins essentielles, que c'est pas grave si elles sont pas là. Ok, c'était... Pourquoi pas? Et après, la théorie, c'était aussi, oui, mais en fait, slash doit être capable d'aller chercher sur le réseau slash user. Ok, je pouvais comprendre la logique un petit peu. Sauf que, quand j'ai découvert Linux, il y a 20 ans, c'était déjà possible techniquement, alors c'était pas encore beaucoup le cas, maintenant c'est systématique. On n'a même pas besoin d'avoir... On n'a pas besoin, pour avoir le système sur le réseau, d'aller chercher slash user comme ça. Et puis, mais sur les premiers systèmes qu'ils ont fait avant d'avoir les réseaux, pourquoi ils ont commencé à séparer? Et bien l'histoire, en fait, c'est que sur les premiers ordinateurs Unix, ils avaient un disque dur. Et puis, ben, ils stockaient toutes les données dedans et c'était monté sur slash. Puis quand ils ont commencé à dire, hey, il n'y a plus assez de place, on va mettre un deuxième disque. Et du coup, on va le monter ailleurs, on va le monter dans slash user. et puis on va remettre des applications dessus pour étendre le système. Et en fait, slash users sur le système Linux, sur le système Unix, n'existe que parce que les premiers disques, ben, ils ont fini par être pleins, et il a fallu mettre un deuxième disque, où c'est qu'on l'a mis, et ben on a dit on va le mettre dans slash user. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'est une relique du passé, mais une relique des années 70. Et qu'on a gardé, parce qu'on se dit, tiens, c'est bien de faire des... Mais ça donne même des guerres de chapelle, des gens qui n'ont pas... qui sont nés après cette époque, et qui vont dire, ah, c'est scandaleux de supprimer slash user, ça correspond plus au monde Unix, ça correspond pas... Mais c'est des raisons purement historiques. C'est un truc qui ne devrait plus être présent, et qui a survécu malgré tout à travers les âges, à travers des tas de tentatives de suppression diverses et variées, et qui est resté là. Et vous dites, ah non, faut pas supprimer, attention, faut garder. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison technique de garder ce genre de choses, surtout qu'on sait les éliminer. Alors, dans le cas de Microsoft et de Windows, je ne me prononcerai pas, parce que ben, je peux comprendre que leur notion de disque comme ça en C2 points, alors accessoirement sous Windows, la hiérarchie comme ça, en commencer le disque par A2 points ou C2 points, etc., ça fait au moins depuis l'apparition de Windows NT au début des fin des années 80, début des années 90, que en fait, c'est une vue de l'esprit, et que la vraie hiérarchie du système, elle est autrement définie, et que il n'y a pas cette notion-là dedans. C'est autre chose, cette hiérarchie-là. Donc, il y a déjà, sous Windows, on va dire, c'est caché pour pas faire peur aux gens et pour pas faire peur aux applications. Mais déjà, là-dessus, c'est un peu fou. Mais alors, dans le monde Linux n'aurait jamais eu besoin de ça, quasiment. Et donc, aujourd'hui, bah, ça fait des décennies qu'on se traîne. Et des fois, on tombe même sur des problèmes techniques. J'ai déjà eu des problèmes d'accès à des machines où, bah, parce que la transition n'avait pas été faite complètement avec un slash user à plus de slash user, avec des problèmes techniques... ben présent, parce que ben ça marchait pas, voilà tout. Donc, les vieilles reliques, et ben on en trouve partout, c'est toujours rigolo, et si vous en trouvez, si vous trouvez des trucs, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette chose, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou quelque chose comme ça, et je verrai pour essayer de retrouver l'origine de la relique, et puis en parler, ça sera toujours un peu rigolo. C'est difficile de faire l'émission tout seul parce qu'il n'y a personne pour dire « Ah, c'est bon, c'est terminé la déclinisation. » Donc du coup, c'est terminé pour la déclinisation et on ne va pas tarder à se quitter parce que ma voix est en train de finir de me lâcher. Donc on va se quitter avec un dernier morceau de musique, je pense, qu'on va couper après parce qu'on va arriver sur la fin de notre créneau horaire. Je suis content, ça a plutôt bien marché malgré l'état de la voix. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une émission normale avec 2 animateurs. Et normalement, la personne à la console aura 2 mains. Parce que là, j'avoue qu'à une seule main, ça a été un peu compliqué par moment. Et on fera une émission, pour une fois, une émission normale. Et par contre, je vous rappelle que les studios ici... Alors, les studios vont bien, mais par contre, l'émetteur, il me semble, n'est toujours pas réparé. Et il y a toujours une campagne de dons qui est faite du côté de Radio Campus. N'hésitez pas, alors c'est aller sur le site de Campus Lille, il me semble qu'il y a un appel de fonds qui est toujours présent. N'hésitez pas à aller donner des fonds pour aider à reconstruire l'antenne du studio, parce que ben, Radio Campus est une structure associative, et on a parlé du besoin de médias indépendants. Je vous rappelle que Radio Campus, du coup, est un média indépendant, sans publicité, qui ne fonctionne que grâce à des subventions de l'État éventuellement, ou grâce à des dons et grâce aux bénévolats. Donc n'hésitez pas à aller contribuer un petit peu à Radio Campus, c'est nécessaire aussi pour nous continuer à propager la parole du livre comme ça. Et puis du coup, j'ai fait tellement de remplissage que je peux juste relancer un jingle. Bonne soirée à tous, j'ai pas d'agenda pour les prochaines semaines, mais bon, on va faire sans, tout ira bien. Bye bye.
L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glisses.